Le journal est présenté par Kevin Dufraîche.
Bonjour à tous. Il avait été condamné pour terrorisme. L'homme qui a tué deux personnes hier à Londres a été libéré l'an dernier. Nous ferons le point avec notre correspondante sur place. Le torchon brûle entre Paris et Ankara. Recep Tayyip Erdogan estime qu'Emmanuel Macron est en état de mort cérébrale à 3 jours du sommet de l'OTAN. Discret, ancien timide et potentiel ami de la France. Dans ce journal, portrait de Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge, vient de prendre la tête du Conseil européen. Il s'agit bien d'un acte terroriste. Voilà ce que dit Scotland Yard de cette attaque au couteau hier à Londres qui a fait 2 morts et 3 blessés. C'est la première fois depuis 2017 que le Royaume-Uni subit un attentat. C'était d'ailleurs au même endroit sur le London Bridge. L'assaillant, un homme de 28 ans, a été abattu par la police. Bonjour Aude Soufie.
Bonjour.
Correspondante de France Culture à Londres. Aude, on en sait plus désormais sur le profil de cet homme.
Oui, l'homme avait déjà été incarcéré en février 2012 pour son appartenance à un groupe qui avait voulu commettre un attentat contre la Bourse de Londres et établir un camp d'entraînement terroriste au Pakistan. D'abord condamné à la prison illimitée, il avait fait appel de cette décision et finalement écopé d'une peine de 16 ans. Il n'en avait fait que 6 puisqu'il avait été remis en liberté conditionnelle sous bracelet électronique en décembre dernier. La question se pose donc de savoir comment sa libération a pu être décidée bien avant la fin de sa peine et alors qu'en principe ne peuvent en bénéficier que ceux qui ne représentent pas de danger pour le public. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une enquête sur cette question spécifique en parallèle de l'investigation sur les faits eux-mêmes. Le suspect était à Londres pour une conférence sur la réinsertion des prisonniers. C'est là, juste à côté de London Bridge, qu'il a commencé son attaque avant de monter sur le pont. Il portait une ceinture d'explosifs factice et a utilisé un long couteau pour poignarder 5 personnes. Les enquêteurs pensent qu'il a agi seul. Une perquisition a lieu dans le centre de l'Angleterre en lien avec cet homme, mais la police ne recherche pas d'autres suspects.
Et puis ce qui est particulièrement souligné à Londres aujourd'hui, Aude, c'est l'héroïsme des passants qui sont intervenus pour maîtriser l'agresseur.
Oui, d'abord à la conférence elle-même où il a poignardé la première victime, une femme. Là, plusieurs participants ont tenté de le neutraliser en utilisant tout ce qu'ils avaient sous la main. L'un d'eux s'est emparé d'un extincteur, un autre a décroché une immense défense de narval qui se trouvait au mur. L'homme est ensuite monté sur le pont, poursuivi par plusieurs de ces personnes. Et avant l'arrivée de la police, elles ont réussi à le désarmer. On a vu une vidéo montrant comment certains se sont rués sur l'assaillant. La plupart de ces personnes étaient à la conférence. Certaines sont d'ex-prisonniers. Les forces de l'ordre sont intervenues 5 minutes exactement après avoir été appelées. Une réponse immédiate saluée par le Premier ministre Boris Johnson, le maire de la capitale Sadiq Khan. Mais c'est surtout l'action des membres du public qui est applaudie ici par tous.
Aude Soufie à Londres pour France Culture. Et à 2 semaines des élections en Grande-Bretagne, la polémique est lancée autour de la libération conditionnelle des détenus condamnés pour terrorisme. Le Premier ministre Boris Johnson dit avoir souligné le problème depuis longtemps. Autre attaque au couteau hier à La Haye, aux Pays-Bas, mais cette fois, la piste terroriste semble être écartée. Un homme a poignardé 3 adolescents dans un magasin du centre-ville bondé en raison du Black Friday. Le suspect est toujours recherché. Les victimes, elles, sont sorties de l'hôpital. Entre la France et la Turquie, il flotte comme un air de crise diplomatique. Le président Erdogan a jugé hier qu'Emmanuel Macron était, je cite, en état de mort cérébrale, reprenant les mots du président de la République à propos de l'OTAN, c'était il y a quelques semaines. Les deux hommes doivent se retrouver la semaine prochaine à Londres pour un sommet de l'OTAN. Justement, l'ambassadeur de Turquie en France a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas une déclaration, ce sont des insultes, réaction de l'Élysée, les précisions de Bertrand Galichet.
Des insultes qui n'appellent aucune réponse de la France, mais exigent des explications de la part de la Turquie, réagit sèchement l'Élysée. Il faut dire qu'en tutoyant à distance son homologue français, Recep Tayyip Erdogan lui a lancé « Fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale », référence au diagnostic établi par Emmanuel Macron à propos de l'OTAN. Tout cela augure d'une ambiance fraîche mardi prochain à Londres, où les deux dirigeants vont se retrouver pour une réunion sur la Syrie, en compagnie d'Angela Merkel et de Boris Johnson, en marge du 70e anniversaire de l'OTAN. Car le président Erdogan ne s'est pas arrêté là, assurant que son homologue français ignore tout de la lutte antiterroriste avant de conclure « c'est pour cela que les gilets jaunes ont envahi la France ». Une réponse cinglante aux reproches faits à la Turquie par le président français sur l'intervention militaire turque en Syrie le mois dernier, opération qui met en péril l'action contre Daesh, estime la France.
En France, la CGT n'osait y croire et pourtant Monoprix a été condamné hier en raison de son accord interne sur le travail de nuit. Le tribunal de grande instance de Nanterre interdit à Monoprix d'employer des salariés après 21h sous peine de recevoir une amende de 30 000 euros par infraction constatée et ce pendant 6 mois. Jade Péchira, qu'est-ce que la justice reproche précisément à l'enseigne ?
Tout simplement d'être moins 10 ans que la loi. La législation encadre le travail de nuit dans le commerce alimentaire de façon précise, notamment dans ce qu'on appelle les zones touristiques internationales comme les Champs-Élysées. Double rémunération, compensation en heures de repos équivalente au nombre d'heures travaillées, des aides pour la garde des enfants et la prise en charge des frais pour rentrer chez soi après une nuit de travail. En dehors de ces zones, ce sont les accords d'entreprise qui prévalent, en l'occurrence entre Monoprix, la CFDT et la CFE-CGC. Accord dénoncé par la CGT. C'est sur ce dernier point, la prise en charge des frais pour rentrer au domicile, que Monoprix pêche, selon le tribunal. L'enseigne accorde une prise en charge du transport le plus économique, si et seulement si les transports en commun sont indisponibles. Le tribunal de grande instance de Nanterre a donc décidé d'annuler l'accord signé entre Monoprix et les syndicats, en rappelant au passage qu'en dehors de ces zones touristiques, le travail de nuit doit être exceptionnel, selon le Code du travail.
Les explications de Jade Péchira. Émotion et recueillement aujourd'hui en Haute-Garonne à Mirepoix-sur-Tarn. Une marche blanche avait lieu ce matin en hommage aux deux victimes de l'effondrement d'un pont suspendu. C'était le 18 novembre dernier. C'est un rendez-vous annuel très attendu. Pourtant, la conférence de l'ONU sur le climat a bien failli ne pas avoir lieu en 2019. Elle se tiendra finalement à Madrid à partir de lundi, mais ce n'était pas gagné puisqu'on apprenait il y a un mois seulement que le Chili, où devait avoir lieu cette COP25 à l'origine, renonçait à l'organiser en raison de la crise sociale et politique que connaît le pays. La capitale espagnole s'est donc préparée dans l'urgence, mais Madrid n'a aucun doute sur le bon fonctionnement du sommet. Mathieu de Taillac.
Madrid a eu tout juste un mois pour préparer la réception des délégations de près de 200 pays, une gageure pour le gouvernement espagnol, pour les transports publics, pour le secteur hôtelier, et pourtant tout semble prêt. Teresa Rivera, ministre de la Transition écologique.
Madrid a plus de 90 000 chambres d'hôtel. La question c'était que les 6, 7, 8 décembre, c'est un long week-end, un pont, où il y a une habitude des gens qui habitent en Provence de venir à Madrid faire la fête, voir les lumières de Noël et faire des courses. L'occupation des chambres d'hôtel est plus forte que dans d'autres week-ends. Et ça, je n'avais pas pensé à ça.
Heureusement, les touristes préfèrent d'habitude le centre-ville, alors que les conférenciers visent plutôt les hébergements proches de l'aéroport et du palais des congrès. Les hôteliers, en tout cas, sont ravis. Beatriz San Pedro, chef de réception de l'hôtel NH Surbano, à quelques stations de métro de la COP.
Nous avons eu autour de 1500 nuitées de plus grâce à la COP. C'est un plus, on ne comptait pas dessus, c'est une très bonne nouvelle. Décembre, pour nous, d'habitude, c'est un mois tranquille. Cette fois-ci, c'est un bon mois.
Et comment Madrid attend une répercussion économique de quelques 200 millions d'euros, selon l'étude d'un cabinet indépendant.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Une Europe confiante et sûre d'elle, voilà la promesse de Charles Michel. L'ancien Premier ministre belge succède à Donald Tusk au poste de président du Conseil européen, l'instance qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union. Un poste diplomatique, stratégique, dont la principale fonction est de faciliter les compromis pas toujours évidents entre les dirigeants européens. Charles Michel qui devrait être un bon partenaire de la France et du président de la République dans sa volonté de secouer l'Europe. À Bruxelles, la correspondance d'Angélique Bois.
Sera-t-il l'homme d'Emmanuel Macron ? En termes d'influence française auprès du Conseil, il n'y a pas photo. On ne regrettera pas Donald Tusk, souffle une source européenne. L'ex-premier ministre belge, qui a siégé à ce titre dans le cénacle des dirigeants, affichait en marge des conseils une évidente complicité, y compris politique, avec le président français. Mais c'est aussi un proche des premiers ministres luxembourgeois et néerlandais, Xavier Bettel et Mark Rutte, tous deux centristes, libéraux et de la même génération qu'Emmanuel Macron. ministre à 25 ans, premier ministre à 38 dans un pays, la Belgique, où rien n'avance sans compromis. Cet ancien timide de 43 ans, peu flamboyant, disent ses détracteurs, est en revanche souvent salué pour ses talents de conciliateur. Une qualité essentielle pour surmonter les blocages entre les 27. Avec la multiplication des domaines dans lesquels l'Union légifère désormais, le Conseil a pris du poids. Charles Michel était plutôt favorable dans le passé à une Europe à plusieurs vitesses, celle qui autorise l'avancée de certains dossiers sans attendre l'unanimité. Son objectif numéro un sera désormais de faire monter tout le monde à bord.
Angélique Boin, la grève se poursuit à Radio France, sixième jour consécutif ce samedi. Les antennes, dont celle de France Culture, sont toujours perturbées. Mobilisation, je vous le rappelle, contre un plan d'économie qui prévoit la suppression de 299 postes d'ici 2022.
La bulle économique. Marie Viennot.
Midi 40 sur France Culture, du Cyber Monday au Black Friday, en passant par des murs de déchets. Voici la bulle économique de ce samedi, signée Marie Viennot.
Peut-être avez-vous déjà vu ces vidéos du Black Friday américain, ces quasi-scènes d'émeutes en supermarché, caddies au poing, les gens qui se marchent dessus pour attraper des produits. Aux États-Unis, le Black Friday a d'abord été un événement dans les magasins physiques. En 2004, apparaît alors le Cyber Monday. Le Cyber Monday est le pendant numérique du Black Friday. Il a été lancé par la plus grande association de commerçants américains pour promouvoir les achats sur Internet à un moment où il n'était pas légion. L'idée, la voilà, simplissime. Vous n'avez pas pu faire du shopping dans les magasins vendredi. Rattrapez-vous le lundi suivant sur Internet où vous trouverez aussi de belles promotions. En France, c'est ce Cyber Monday qui a d'abord été importé des États-Unis par les nouveaux acteurs du commerce électronique. Il fallait aussi populariser l'achat en ligne et rien de tel pour cela que des promotions dites « monstres ». Puis, du lundi, on a débordé sur le dimanche, puis le samedi, jusqu'à rejoindre finalement le vendredi. Et peu à peu, cette grande opération de promotion de la vente à distance a repris la dénomination Black Friday, plus emblématique et moins cyber-numérique. Aujourd'hui, les commerçants traditionnels ont aussi adopté le concept du vendredi noir de solde en France et ils l'ont même étalé sur toute la semaine. Mais à l'origine, c'est bien pour favoriser le e-commerce que l'événement a été lancé en France. La plupart des études consacrées au Black Friday français émanent d'ailleurs d'acteurs de la promotion, du marketing ou du commerce digital. Nous voilà maintenant dans l'un des centres logistiques de l'enseigne Cyber à qui profite le plus cette opération commerciale, Amazon. Cette année, le géant américain de la distribution est la cible de tous ceux et celles qui conspuent le Black Friday et même au-delà. Amazon, qui détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée, selon un rapport publié par l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Amazon, qui dissimule 57% de son chiffre d'affaires réalisé en France, selon les calculs d'attaque. Amazon, qui détruit des millions de produits invendus chaque année. Amazon, qui a transporté 29% de produits en plus par avion sur les 6 premiers mois de l'année 2019. En dépit de toutes ces critiques en hausse, le Black Friday en France devrait aussi afficher un chiffre d'affaires en hausse. 6 milliards d'euros d'emplettes sur 4 jours, dont 1 milliard sur le web, estime un groupe américain leader de la promotion digitale. Ce serait 4% de plus qu'en 2018. Le Black Friday inciterait donc bien à la consommation en France, mais pour l'INSEE, il a plutôt déporté une partie des achats de Noël de décembre vers la fin novembre, et c'est surtout notable pour les bijoux, l'électroménager et la parfumerie. Pour autant, le Black Friday pousse-t-il à consommer davantage? C'est difficile à établir. Ce qui est notable, en revanche, et totalement inédit, c'est l'évolution du discours politique à l'occasion de ce Black Friday. La ministre de la Transition écologique, sa secrétaire d'État à l'économie circulaire, ont toutes deux critiqué la frénésie de consommation liée au Black Friday. Écoutez Brune Poirson.
Consommer n'est pas un geste anodin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que je pense qu'il faut le faire différemment.
Cette semaine, le gouvernement a donc lancé un site internet intitulé longuevieauxobjets.gouv.fr. Vous y trouverez des adresses et des infographies très intéressantes, notamment un mur de 10 mètres de haut reliant Oslo à la pointe de l'Italie. C'est le volume des déchets électriques et électroniques non recyclés en Europe. Il n'y a pas que les objets qui vivent plus longtemps que les gens, il y a aussi les déchets. Que le Black Friday soit une occasion de le rappeler, c'est quelque part un progrès.
Et la bulle économique de Marie Viennot est à retrouver en podcast sur franceculture.fr. La météo, de la pluie sur l'ouest du pays en fin d'après-midi, ça ira de la Basse-Normandie au Pays de la Loire et à la Nouvelle-Aquitaine, puis le centre, le Massif central et l'Occitanie en soirée. Au nord et à l'est, le soleil résiste pour l'instant, mais le ciel va se voiler au fur et à mesure de la journée. Côté température, la minimale c'est 2 degrés pour Metz, 14 degrés pour la maximale à Nice cet après-midi. C'est la fin de ce journal, préparé aujourd'hui avec François-Charles Domergue et réalisé par Jacques Hubert.